Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Aujourd'hui, on connaît plus un petit peu ces changements de cap. À l'époque, c'était vraiment, il y a personne qui faisait ça. Notre vie est différente. Chaque décision qu'on prend qui change du cap, qui change de la route, et c'est magique. Mon objectif principal aujourd'hui, je voudrais être dans les rayons d'une ou deux enseignes connues au Maroc pour pouvoir être vraiment disponible au plus grand nombre.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invitée aujourd'hui, c'est Khadija Benslimane. Elle est entrepreneure et fondatrice de KB Kombucha, la première marque marocaine 100% locale de kombucha. Elle nous raconte donc aujourd'hui son parcours et comment elle s'est justement retrouvée dans l'entrepreneuriat. Khadija Benslimane, bonjour.
Bonjour Karima.
Comment ça va ?
Très bien, je te remercie. Merci beaucoup pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi, Khadija. Alors, comme on le sait, et comme j'en parle souvent dans Job Story, toute carrière a un point de départ, le jour où tout a commencé, en quelque sorte. Quel est le tien ? Comment est-ce que tout a commencé pour toi sur le plan professionnel, tes premières expériences dans l'univers pro ?
Alors, ma première expérience dans l'univers pro, c'était dans l'entreprise familiale. Mmh. J'ai grandi dans une usine de confection. Mes parents ont eu une usine pendant presque 30 ans. Et donc, naturellement, après mon bac et mes études supérieures, je suis rentrée au Maroc pour intégrer l'entreprise familiale dans le textile. Donc voilà, ça a été ma première expérience, qui a été une expérience très difficile puisque j'arrivais à un moment assez critique dans la vie du secteur du textile au Maroc avec l'ouverture des quotas, les pays de l'Est, etc. Une concurrence très, très compliquée.
Ouais.
La société a dû fermer. Donc, ça a été aussi une expérience assez assez douloureuse pour toute la famille, mais moi j'ai pu changer de métier, mais en restant toujours dans l'entreprise familiale, c'est quelque chose qui était important pour moi, en intégrant un autre groupe familial agroalimentaire marocain.
D'accord.
Dans lequel je suis restée 5-6 ans, et où d'ailleurs j'ai commencé à découvrir un petit peu le terroir marocain, puisqu'ils produisaient des fruits, de l'huile d'olive, etc. Et en allant un petit peu sur les terrains, en parlant aux agronomes, j'étais assez passionnée. Je me suis rendu compte à quel point on était un petit peu déconnecté de la nature. Je trouvais ça merveilleux, tout ce qu'ils me racontaient sur le soleil, les arbres, etc. Et un petit peu éveillé une passion, une passion en dormance, une petite graine, qui fait que 4-5 ans après, quand j'étais dans une autre entreprise du groupe.
D'accord.
Là, du coup, ça avait un petit peu moins de sens, même si ça se passait extrêmement bien professionnellement. Et je me suis dit, oh là là, est-ce que le cadre de l'entreprise, est-ce que c'est ce que je veux faire tout le reste de ma vie? Je trouvais que c'était un peu enfermant. J'ai fait une crise de la trentaine, je pense.
Une remise en question, oui.
Ah,
on passe toutes et tous par cette période. Avant de revenir justement à cette remise en question, Khadija travaillait avec sa famille. Alors, beaucoup de gens peuvent penser que voilà, c'est je me la coule douce, je ne fais pas d'efforts, c'est mes parents ou c'est ma famille, je ne fais pas grand-chose, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Généralement, la majorité du temps, on donne même plus quand il s'agit d'une entreprise familiale. Comment ça s'est passé sur le plan personnel, ce mélange de perso et de pro?
Alors, c'est vrai que c'est un challenge. C'est un challenge parce que, surtout quand on arrive et que la société a plus de 30 ans, donc tout le monde a ses habitudes et un fonctionnement.
Oui.
Et nous, on arrive avec la jeunesse et aussi l'envie l'envie et le besoin de faire différemment, mais avec une structure qui est là et dans l'industrie, c'est pas forcément très flexible. Et surtout à cette époque-là, il y avait un besoin de faire différemment parce que le modèle en lui-même, il commençait un petit peu à s'essouffler. Et donc là, c'était comment arriver à lier le besoin du marché d'évoluer pour survivre vraiment. et le fonctionnement de la société. Donc, je pense que je suis arrivée un petit peu tard, mais pour répondre à ta question, moi, mes parents et ma famille m'ont vraiment toujours fait confiance. Je suis quelqu'un de sérieuse, je suis quelqu'un de très engagée. Et puis, dans la famille, on est vraiment comme ça, se serrer les coudes, être présent l'un pour les autres. Donc, il n'y avait pas de doute. Et puis, j'étais au même rythme que tout le monde. Et la société vivait de grandes difficultés. Donc, on était tous extrêmement engagés.
Ouais.
On avait 300 personnes. Et se dire qu'on a besoin de continuer et d'avoir la responsabilité, c'est quelque chose de très jeune qui a été qui m'a beaucoup impactée et en même temps qui a été très lourd pour mes jeunes épaules quand
je suis arrivée à
22 ans avec cette responsabilité accompagnée de mes parents, mais de se dire comment on fait pour que ça puisse continuer à être viable avec 300 personnes qu'on a à notre charge, des fournisseurs et tout l'écosystème autour. Donc c'est challengeant. Mais on se serre les coudes en famille et on essaye d'être l'un pour les autres. Quand quelqu'un vacille, l'autre est là et on se soutient.
C'est une très bonne chose et c'est la meilleure façon justement de procéder ou de faire les choses dans de telles situations. On revient donc à cette crise de la trentaine. Khadija, comment ça s'est passé? Quels ont été peut-être les questionnements qui t'ont traversé l'esprit? Tu as pensé à quoi? C'était quoi ton next step à cette époque?
Alors, écoute, à la trentaine, j'ai vu mon rythme. Je suis quelqu'un qui est extrêmement engagé et passionné quand je fais quelque chose. Et en sortant de l'entreprise familiale, je travaillais pour la société familiale. Donc quand j'ai changé et que j'ai travaillé pour une autre société, pour moi c'était la même chose. Donc j'avais le même engagement pour quelqu'un d'autre que j'avais pour notre société.
Mmh.
Mais du coup, dans le rythme, je gardais ce rythme-là et qui était assez de se lever le matin, d'avoir un petit peu pas la boule au ventre, mais de se dire j'ai tout ça à faire. En fait, je pense que avec le recul, je me mettais beaucoup de pression. Je me mettais la pression que je me mettais dans l'entreprise avant, alors que l'autre société allait bien et que tout le monde était cool, mais j'avais gardé un petit peu ce stress d'en faire toujours plus. Et je trouvais mon rythme de vie, je me disais, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça, à se lever à 7h, à rentrer à 20h et à devoir toujours faire plus, faire mieux, ça avait plus de sens. Et je me suis dit, même si j'avais des collègues super, franchement, j'ai eu aucun souci à ce niveau-là, je me suis dit, comment ça peut être de se lever le matin et d'être juste super content de se dire je vais faire ce métier, d'avoir quelque chose qui avait du sens.
Ouais.
Voilà, vraiment quelque chose qui avait du sens. Je me suis dit, je ne sais pas si c'est possible. Je ne me suis même jamais posé la question de ce que j'aimerais faire dans ma vie.
Mm.
J'ai fait le parcours classique de économie gestion, école de commerce. Je devais reprendre l'entreprise familiale. Donc mon parcours était assez tracé. Je ne m'étais jamais posé la question. Et quand j'ai voulu me la poser, je me suis rendu compte que je n'avais pas les réponses. Je me suis dit, je sais pas, je sais que je veux pas faire ça toute ma vie, je sais que je veux pas vivre comme ça, mais je sais pas. Et donc, j'ai pris le temps. Moi, je trouve que quand on se pose des questions comme ça, on n'a pas forcément besoin d'y répondre tout de suite.
C'est vrai.
Faut juste laisser le temps et dans l'année, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai pu avoir l'opportunité de quitter l'entreprise et d'aller en France. Et du coup, c'était l'occasion de changer de métier. Et c'est là que je me suis reconvertie dans le domaine de la santé et de la naturopathie grâce justement à cette expérience précédente d'avoir vu dans le terroir marocain la magie des plantes qu'on avait. Je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment bien approfondir ce domaine-là.
Et ce switch a été facile, que ce soit pour toi, mais aussi pour même peut-être ta famille. Est-ce qu'il y a eu des encouragements? Est-ce qu'on t'a dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, comment ça s'est passé? Parce que c'est une transition assez importante.
Oui. C'est une question importante et c'est vraiment pas une question évidente. Aujourd'hui, on connaît plus un petit peu ces changements de cap. À l'époque, c'était vraiment, il y a personne qui faisait ça. J'avais un âge où tout le monde avait une carrière et puis construisait la maison, les enfants, la famille. Et moi, je lâchais tout pour retourner sur les bancs de l'école dans un domaine où personne ne savait même ce que c'était que la naturopathie. Donc, c'était vraiment compliqué, que ce soit pour mon entourage et ma famille, surtout que ça impliquait que je quitte le Maroc. Ils avaient vraiment encore besoin de moi et ça a été une décision très difficile, ce côté de dire « Ok, je les abandonne pour poursuivre mon rêve, je me fais passer en avant moi et le sens que j'ai envie de donner à ma vie et je les laisse. » C'était vraiment, vraiment difficile. Ils n'ont pas vraiment compris. Mais les parents ont tellement d'amour pour leurs enfants que à un moment ils lâchent et ils disent ok ben vas-y et de toute façon ils nous ont toujours soutenus même quand ils ont pas forcément voilà même quand ils comprennent pas forcément et puis après quand ils voient l'évolution ils sont super fiers et ça se passe bien mais oui c'est pas évident en plus c'est une insécurité totale on ne sait pas ce qu'on va faire on lâche la sécurité financière la carrière on ne sait pas dans quoi on va donc pour moi c'était difficile pour eux encore plus.
C'est vrai, parce qu'au final, comme tu viens si bien de le dire, c'est vrai que les parents, tout ce qu'ils souhaitent, c'est nous voir heureux. Voilà, peu importe ce qu'on choisit comme carrière ou comme plan de vie, tout, de façon plus globale ou plus générale. Mais en fait, je pense que ce qu'ils craignent le plus, c'est cette insécurité et le fait de ne plus avoir de stabilité financière, de se lancer un petit peu dans le flou total. Et je pense que c'est ça qui les inquiète plus. Plus qu'autre chose finalement. C'est juste parce qu'ils ont peur qu'on se retrouve, qu'on n'ait pas forcément de quoi subvenir à nos besoins, que ça ne marche pas, etc. Donc ça se comprend. Mais le plus important, c'est de soutenir son enfant, peu importe la décision qu'il prenne, bien sûr, dans la limite du raisonnable. On ne parle pas de décisions qui peuvent un petit peu changer le cours de nos vies. Mais voilà, on a envie de faire un changement de carrière, de cap d'études, etc. Je pense que tous les parents qui nous écoutent devraient faire comme tes parents et l'accepter et voir ce que ça va donner.
Oui, parce que, tu sais, moi, je me suis dit quelque chose. À cette époque-là, je me suis dit, OK, j'ai 30 ans. Si je ne le fais pas maintenant, je sentais que c'était le moment. Je me suis dit, j'ai déjà une jolie carrière. Donc, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Je le fais, ça ne se passe pas spécialement bien. Je peux revenir et j'ai une expérience. Je peux revenir. Donc c'est quand même aussi quelque chose de maîtrisé. On peut se donner un timing, on peut se donner un an, deux ans. Et au pire, c'est une expérience tellement enrichissante de se lancer dans le vide, de se faire confiance, d'aller ne pas avoir de regrets, que même si, j'ai envie de dire aux parents, même si l'expérience n'aboutit pas, l'expérience humaine qui va en retirer de confiance ou d'apprentissage, que ce soit une réussite ou un échec, ça fait grandir énormément, ça donne de la maturité et c'est oser. Et le risque, après, ça permet à un adulte de pouvoir, dans sa vie, prendre des décisions difficiles parce qu'à un moment donné, il a réussi à avoir le courage de s'écouter, même c'est si au final, ça marche ou ça ne marche pas.
C'est vrai. Au final, on ressort gagnant, peu importe le résultat.
Exactement.
Parce qu'il y a des choses qu'on apprend sur le terrain et qu'on apprend en faisant des erreurs et des échecs. Si on ne les fait pas, on va pas apprendre beaucoup de choses et il se peut qu'un jour on se retrouve dans une situation où on va voir tout ça à la gueule entre guillemets et on va se dire comment je gère ça, qu'est-ce que je dois faire, j'ai jamais connu une telle situation alors que si on le vit avant, au moins on est un petit peu on est préparé quand même.
Ce côté-là et le côté aussi de frustration. De ne pas rester avec de la rancœur et de porter ça, la frustration au long des années, j'aurais dû, etc.
Ça, c'est horrible.
C'est quelque chose qui ne fait pas du bien.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est...
Et de s'enlever ça en disant j'ai essayé, j'ai fait, je me suis fait confiance, ok, ben maintenant je sais que c'est pas la voie et je fais, ou alors super. Et une chose amenant l'autre, notre vie est différente, chaque décision qu'on prend qui change du cap, qui change de la route. Et c'est magique. Ça, c'est quelque chose de vraiment fabuleux et de magique.
C'est vrai, je te rejoins parfaitement sur ce point, Khadija. Alors, naturopathie et l'entrepreneuriat, c'est venu à quel moment, cette volonté d'entreprendre?
Alors, écoute, la volonté d'entreprendre, moi, ça faisait 6 ans que j'étais bien confortable dans ma passion, dans l'accompagnement de ces jours de jeûne hydrique où j'ai eu une expérience humaine fabuleuse. Mais je pense que mes parents sont commerçants, j'ai été dans l'industrie, j'ai grandi dedans, et je pense que j'ai vraiment gardé ça, et je savais que même si je passais des années que j'étais extrêmement épanouie dans ma profession, je sentais que c'était une phase et que j'allais y revenir. Je savais pas spécialement comment, et puis ça s'est fait naturellement, et je trouve ça assez incroyable de revenir avec mes deux expériences, l'expérience dans l'entreprise, dans l'industrie, alliée à mon expérience dans la santé, et à cette volonté de me dire ok, j'y reviens, mais j'y reviens avec ce que je voulais, quelque chose qui a du sens pour moi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et l'entrepreneuriat dans le kombucha, bah, c'est le fait d'avoir de m'être passionnée pour le microbiote, de m'être passionnée pour ces boissons fermentées. Ouais. Et parce que je suis une grande gourmande, et puis qu'on peut prendre soin de sa santé et se faire plaisir, ça c'est vraiment une grande dynamique dans les accompagnements que je faisais sur la nutrition. On se fait plaisir, il y a juste quelques règles. Et les fermenté, pour moi, c'est juste une façon de boire quelque chose, de partager une boisson plaisir, sans culpabilité, en se faisant du bien pour la santé. Donc, ça allie tout ça.
Ouais.
Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un marché et plein de personnes qui étaient dans cette même demande. Que ce soit moi ou mes clients, il y a vraiment une demande de produits différents.
C'est vrai.
Qui a du plaisir, mais aussi qui nous fasse pas de mal. Il y a quand même on a tous autour de nous des personnes qui sont malades, qui ont des difficultés de santé, et c'est vraiment la valeur et le capital le plus précieux qu'on puisse avoir.
C'est vrai, je suis tout à fait d'accord.
Donc, pouvoir se faire plaisir et pouvoir offrir au plus grand nombre cette possibilité, je me suis dit, allez, hop, on saute le pas. Ça n'a pas été facile. Hein.
J'imagine. C'est là qu'est né KB Kombucha. Justement, on y est. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce sens? Ça peut être sympa de partager ça justement avec les personnes qui ont peut-être cette envie d'entreprendre, etc., de connaître, de savoir qu'il y a le bon côté, mais il y a aussi des difficultés à prendre en considération.
Alors, il y a plusieurs difficultés. La première, elle est vraiment personnelle. Elle est de se dire, ok, j'identifie un besoin, j'ai envie. Est-ce que j'y vais pas. À titre personnel, on fait face à la même chose, la même chose qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire des peurs.
Ouais.
Est-ce que je me relance dans ça? Les enjeux? Qu'est-ce que je risque de perdre? Vous voyez, donc il y a cette première difficulté d'oser. Et puis là aussi, pareil pour moi, ça a été laisser le temps. De regarder, d'observer ça et de me dire, ok, qu'est-ce qui bloque? C'est ça, c'est l'expérience avec mes parents, de fermeture. Ok, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Et j'ai abordé ça avec un thérapeute, avec des coachs. Ça peut être intéressant au niveau humain d'aller regarder tout ce qui bloque. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important, de me refaire confiance et de me dire, oui, ok, c'est une nouvelle expérience, c'est la mienne et je sais qu'elle peut réussir. On y croit, mais les peurs parfois viennent embrouiller ça.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, la deuxième difficulté, c'est de construire un projet qui soit viable. Et là, ça demande beaucoup de travail. Moi, j'ai travaillé 2 ans sur ce projet. Je me suis formée, il faut s'assurer que son produit réponde à un besoin. À un marché, quel est le marché, vraiment faire une bonne étude et puis que son produit, on le maîtrise complètement. Moi, quand j'ai commencé dans la cuisine, mes premières kombucha, mes frères me disaient, t'es sûr, t'es vraiment sûr que tu veux faire ça? Je dis oui, c'est bon, ça ressemblait peut-être plus à un vinaigre qu'à un thé à l'époque. Donc oui, il y a tout ce côté de maîtriser son produit, de prendre le temps.
Ouais.
Et la principale difficulté pour moi dans l'industrie, c'est l'écosystème. Je me suis rendu compte quand je voulais trouver des fournisseurs de thé, de bouteilles, de bouchons, je me suis rendu compte que l'écosystème, il n'est pas évident pour les petites sociétés pour avoir les matières premières nécessaires. Et j'ai dû m'adapter. Donc là aussi, ça a demandé un lâcher prise, me dire je veux ça. Je peux pas, il y a ça. Il y a ça, ok, tu prends ça. Parce que si tu veux ça, tu vas juste pas aboutir à ton projet. Donc il y a vraiment aussi cette flexibilité de pas être braqué sur quelque chose et de se dire, ok, d'accord, je veux y arriver, comment je m'adapte? Il y a ça, je fais avec ça. Donc ça a été aussi très très important. Après, il y a bien sûr toujours l'histoire du financement.
Oui, comment ça revient très souvent.
Exactement. Et là, ce qui est important, ça a été aussi quelque chose que j'ai beaucoup étudié, comment je dimensionne ma société. Combien je veux pouvoir produire, quel est le minimum que je peux produire pour pouvoir satisfaire le marché, mais être dans quelque chose de cohérent par rapport au fond que moi je veux mettre ou que je peux avoir. Parce qu'il y a ce que je veux faire et il y a ce que je peux faire. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de bien identifier les deux et de trouver quelque chose qui puisse satisfaire le marché, mais être faisable en termes de financement. Voilà. Après, il faut trouver les financements et après, il faut tester les produits, tester le marché. Donc ça, j'ai fait ça vraiment pour arriver à la bonne recette. Et aussi, un élément important, si les personnes aussi nous écoutent, c'est que un produit, quand il va aller chez un consommateur, un produit ou un service, le marketing, l'étiquette, le packaging, comment on va vendre son produit, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et quand on crée une société, au début, on a tellement de coûts, on ne va pas forcément investir là-dedans. Et moi, je me suis tout de suite dit, si c'est bon et que ça fait médicaments ou que ça fait ci ou que ça fait ça, il faut que la personne sur le rayon, elle ait envie de la prendre comme elle aurait envie de prendre une autre marque étrangère. Et donc j'ai mis une somme d'argent importante, qui était importante pour moi, que j'aurais pu mettre ailleurs dans la société, en me disant, si mon produit est bon et qu'il ne se vend pas, ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est arriver à faire au mieux pour que le produit réponde à une demande, qu'il soit bon, parce que
c'est la base.
Il y a l'inverse aussi. On peut faire un super marketing, magnifique, super, etc. Et le client va tester le produit une fois, deux fois, il va dire non, c'est pas bon.
Voilà.
Donc il faut vraiment assurer chaque. Ensuite, il faut pouvoir assurer la production. Donc tout ça, ça demande du temps.
C'est cette notion de flexibilité justement dont tu viens de parler, Khadija, qui est hyper importante. En tout cas, quand on a, je pense, l'ambition, quand on est sérieux, quand on a vraiment on met le cœur dedans, je pense que ça finit toujours par marcher d'une façon ou d'une autre. Après, oui, bien sûr qu'il y a des difficultés, des obstacles, etc. Mais voilà, au final, quand on fait ça avec le cœur, comme toi d'ailleurs, pour KB Kombucha, on ne peut qu'aller de l'avant. Et en parlant d'aller de l'avant, justement, Khadija, avant de mettre fin à notre discussion et notre échange, c'est quoi ton next step, ton prochain objectif, quelque chose que tu souhaiterais atteindre prochainement?
Alors vraiment, mon objectif principal aujourd'hui, je voudrais être dans les rayons d'une ou deux enseignes connues au Maroc pour pouvoir être vraiment disponible au plus grand nombre. Je sais que mon produit est bon, je reçois des messages tous les jours de mes de clients, où est-ce qu'on la trouve. Et donc pour moi, le défi, c'est vraiment le référencement et que certaines enseignes, restaurants, cafés, hôtels me fassent confiance pour proposer le produit qui répond à une demande et les convaincre de le tester, de l'essayer. Voilà, donc ça, c'est vraiment c'est mon prochain défi.
C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite, Khadija Benslimane.
Je voudrais rajouter quelque chose que tu as dit qui est extrêmement important et que je voulais noter aussi. Tu as dit le côté passionné.
Ouais.
Et par rapport à la question que tu m'as posée sur les personnes qui veulent se lancer, c'est fondamental ce que tu as dit, la passion. Quoi qu'on lance, ça demande tellement de travail, d'engagement, de lâcher prise, etc., que la passion, c'est une force qui est vraiment importante. Et on va donner tellement, on va travailler tellement que si on est passionné, ça aide énormément. Voilà, donc ça, je voulais rajouter ça parce que c'est vraiment important.
Et c'est sur ce très, très beau message, Khadija Benslimane, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis, je te souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup, Karima. Merci.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Stories est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.